On va commencer par juste préciser deux choses. La première, c'est le sycomore, parce que donc c'est au verset 4, hein, si c'est ça, oui. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore. Donc le sycomore, c'est, certains en ont sûrement déjà vu, s'ils sont allés en Terre Sainte, à Jéricho, voilà. Donc, en fait, ça fait partie de la famille des figuiers. C'est un figuier sauvage. Et ce figuier fournit non seulement des fruits, mais il a une autre réputation que les fruits. Il est aussi connu pour son bois, qui n'est pas un bois aussi luxueux que les cèdres du Liban, mais qui est un bon bois de menuiserie, si bien qu'on sait que le roi David avait nommé un responsable des sycomores pour s'assurer eh bien que le bois issu des sycomores était bien utilisé et qu'il n'y avait pas de perte dans les récoltes. Donc c'est un bois qui est quand même un bois important. Et la deuxième précision, c'est la mine, puisqu'il est question de la valeur, enfin d'une somme qui a la valeur d'une mine. Et les mines, enfin la mine, c'est pas évidemment, je sais pas, une mine de charbon ou un truc comme ça. C'est avant tout une unité de mesure, une unité de mesure du poids. Donc une mine, ça équivaut à 350 grammes. Alors, pardon ? La mine, c'est verset 13. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Donc au temps de Jésus, c'est 350 grammes. Ça varie au fil du temps, évidemment. Mais au temps de Jésus, c'est 350 grammes, ce qui fait environ 100 drachmes d'argent. Et en fait, le drachme, c'est à peu près une monnaie équivalente au denier, et un denier, c'est le salaire journalier pour un ouvrier agricole. Donc, c'est-à-dire que la somme, c'est pas énorme, quoi. La différence, c'est que la drachme, c'est une monnaie grecque, alors que le denier, c'est une monnaie romaine. Alors, parlons un peu de Zachée. Zachée, c'est le chef des collecteurs d'impôts. Ça, on le lit dès le deuxième verset. Et comme on l'avait déjà évoqué pour un autre collecteur d'impôts, Lévi, au chapitre 5, les collecteurs d'impôts ont une fonction qui a quand même cette particularité de créer l'inimitié de leurs concitoyens, pour deux raisons. Raison numéro un, parce qu'ils s'enrichissent sur le dos des concitoyens, parce qu'ils peuvent rajouter une marge. Et de fait, il est quand même bien précisé ici qu'il est riche, ce collecteur d'impôts, verset 2. Hein. Et en plus, et c'est la deuxième raison, il travaille pour l'envahisseur. Il travaille pour l'Empire romain, ce qu'on appelle les publicains. Donc, il est de convenance pour le peuple israélite de ne pas inviter ces personnes, même de les éviter. Et si jamais il lance une invitation, eh bien, il faut refuser l'invitation. Il ne faut surtout pas aller dans la maison d'un collecteur d'impôts. C'est très mal vu. Sauf que là, Jésus, il fait l'inverse. Mais c'est même plus que l'inverse. C'est-à-dire que c'est non pas l'acceptation d'une invitation, c'est-à-dire que c'est lui-même qui s'invite. Il n'attend même pas d'être invité par Zachée, il s'invite chez lui, c'est le verset 5. Zachée descend vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Et on voit bien dans la formulation qu'utilise Jésus, il y a même un caractère d'urgence. Il faut que j'aille. Et c'est aujourd'hui. Et en fait, à partir de ce moment-là, Zachée est déjà restauré dans une dignité qui est une dignité nouvelle. Parce que Zachée, on a dit, il était riche, c'est un républicain, donc même s'il est méprisé par les autres, il jouit quand même d'un statut qui lui procure une dignité de notable en quelque sorte, notamment par sa richesse. Mais cette dignité, qui est issue de la richesse, en fait il va complètement l'oublier au moment où Jésus arrive. Il va oublier son honneur et de sa petite taille, et il va se précipiter dans un arbre, comme un enfant, pour pouvoir voir Jésus. Et à ce moment-là, il fait justement déjà l'abandon, le deuil de cette dignité. Donc sa conversion à lui, elle est déjà opérée à ce moment-là. Il n'a pas besoin que Jésus lui demande de changer de vie. Il a déjà, en abandonnant sa dignité passée, changé de vie. Il s'est déjà converti. Et on voit bien que Jésus n'a pas besoin de lui dire « Bah écoute, si tu as volé les autres, il va peut-être falloir que tu rendes. » Il le fait spontanément. Tout le monde récrimine au verset 7. Et au verset 8, Zachée, debout, s'adresse au Seigneur. « Voici Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Jésus n'a même pas eu besoin de dire une seule parole. Et c'est cette conversion de celui qui était pécheur, donc aux yeux de tous, en raison de sa fonction de publicain, qui va permettre à Jésus d'expliquer qu'aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Le verset suivant, le verset 9. Et Jésus va même reprendre la dialectique, vous vous souvenez, au chapitre 15, perdu, retrouvé, la brebis perdue et retrouvée, la pièce perdue est retrouvée, le fils perdu est retrouvé, et il va reprendre cette dialectique quand il va dire que cet homme est retrouvé. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Verset 10. Donc Zachée, c'est la brebis égarée que le pasteur Jésus va prendre sur ses épaules. Et lorsque Jésus parle, on peut entendre aussi les paroles du prophète Ézéchiel. Donc ça, c'est au chapitre 34, verset 16 d'Ézéchiel. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Et quand Zachée dit qu'il va rendre quatre fois plus à celui à qui il a fait du tort, en fait, on est toujours dans un langage législatif et pastoral. Parce que dans le livre de l'Exode, chapitre 21, verset 37, il est écrit « Si un homme vole un mouton, il fournira en compensation quatre têtes de petit bétail. » Donc ça signifie qu'entre la parole de Jésus et la parole de Zachée, on a une référence à la loi et une référence au prophète. Or, on a déjà vu que lorsqu'on parle de la loi et des prophètes, c'est l'ensemble de l'écriture qui est récapitulée. Et donc là, ces deux mentions, Luc, même si c'est implicite, tient à ce que l'on puisse les comprendre, parce que ça signifie que lorsqu'il y a un pécheur qui se convertit, c'est l'ensemble des Écritures qui s'accomplit. Et donc c'est pleinement la dynamique de Jésus au chapitre 15. Il suffit qu'il y en ait un perdu de retrouver, et c'est la joie du ciel. Et ensuite, Jésus dit une parabole. La parabole des mines. Donc elle correspond à la parabole des talents chez Matthieu. Mais elle a quand même sa singularité. D'abord parce que cette parabole chez Luc est placée à un endroit crucial, c'est juste avant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ce qu'on verra juste après. Mais l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem va être suivie du couronnement d'épines et de la résurrection. Or, ici, il est quand même bien question d'un homme de la noblesse qui part dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Donc on a cette idée de la royauté couronne d'épines, de l'homme de la noblesse et Jésus est fils de David, et revenir ensuite, résurrection et parousie. Donc l'assimilation avec Jésus, elle est assez évidente en fait. Ce qui fait que même si on va appeler cette parabole parabole des mines et que c'est effectivement ce qui est en jeu de manière explicite, l'enjeu est plus profond que simplement la question des mines. L'enjeu, c'est celui du jugement. Parce que si le roi, enfin le seigneur revient avec son titre de royauté, de voyage, et qu'il demande des comptes aux uns et aux autres, eh bien ça signifie, si on assimile ce roi à Jésus, que lorsque Jésus reviendra, il demandera des comptes aux uns et aux autres. Donc on est dans le jugement du Christ. La question, c'est donc, qu'est-ce qu'on apprend du jugement ? On sait qu'il est donné aux 10 serviteurs qui sont présents la même somme qui a donc la valeur d'une mine. Une somme, on l'a dit, hein, qui n'est pas très importante en soi, 100 jours, 100 journées de travail pour un ouvrier agricole. Donc ce qui veut dire que concrètement, il n'y a pas d'investissement sur le long terme possible. En revanche, on sait aussi maintenant la récompense de celui qui a été fidèle. Et on passe d'une mine à 10 villes ou 5 villes. Et là, on est sur un investissement sur le long terme. Donc il n'y a pas de commune mesure entre ce que le Seigneur donne avant de partir et la récompense qu'il donne au retour. Pardon ? On ne nous dit pas il y a combien d'habitants dans la ville, ouais. C'est peut-être ça le truc, en fait. Donc la mission des serviteurs, et donc des disciples, ce n'est rien comparé à la récompense qui les attend. Sauf que pour recevoir la récompense, eh bien, il y a une première chose. Il faut résister à la voix de ceux qui rejettent le règne du Seigneur. Parce qu'on l'a vu, il y a des concitoyens, c'est au verset 14, qui détestent le futur roi et donc qui envoient une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Et ça fait peur à certains, notamment au troisième serviteur, qui ne va pas faire fructifier ce qui lui a été donné. Donc la première étape pour recevoir la récompense, ne pas écouter la voix de ceux qui veulent nous détourner du maître. Et ensuite, deuxième étape, faire fructifier ce qui a été reçu de la part du maître. Et ça nous rappelle une situation qu'on a déjà vue dans la parabole du semeur, donc au chapitre 8. La semence tombe dans la bonne terre, et là, elle pousse, et elle donne du fruit au centuple. Et la finale de cette parabole, elle peut un peu nous surprendre, parce que celui qui avait l'équivalent d'une mine est dépouillé de ce qu'il avait. Il y a aussi les ennemis du roi qui sont mis à mort. Mais en fait, la parabole, elle suit une tradition dont on a déjà parlé, qui est la tradition des deux voies, la mort, la vie. Et en fait, à ce moment-là, il est clair que celui qui a fait fructifier reçoit plus encore, celui qui n'a pas fait fructifier est dépouillé de tout. Il n'y a pas de milieu possible, quoi. C'est tout ou rien. C'est la vie ou la mort. Il n'y a pas de statu quo possible. Et donc, il n'y a pas de statu quo possible non plus pour les ennemis. Ils se sont mis au travers de la route, donc ils ont le même sort que celui qui est dépouillé de tout. Ils sont dépouillés de leur vie.